Féral ne publie pas, donc, mais il reste des traces.
Il publie après sa mort grâce à vous, mais de son vivant. Et...
mais même ses ouvrages ne sont pas construits. C'est-à-dire qu'effectivement, après, il y a un travail très très long. Jacques Gaillard a passé plusieurs années à essayer de reconstruire la métaphysique du mou. Parce qu'effectivement, c'est des morceaux de phrases, c'est des morceaux de cahiers, c'est effectivement... Donc, c'est même pas construit comme un livre. C'est-à-dire qu'il n'a même pas l'idée de publier. C'est-à-dire que ça ne l'occupe pas du tout. C'est là où c'est difficile un peu de reconstruire.
Le problème de Bénédicte de Potus, c'est que c'est un génie. Il était génial, mais seulement quelques minutes par jour. Donc, il avait comme ça des pensées, des fulgurances. Donc, c'est une pensée par fragments. Donc, certains de ses compagnons, ses amis, la famille, notaient parfois sur des petits morceaux de papier... des dits et des non-dits, des pensées, des arrière-pensées. Mais seulement, voilà, c'est ça aussi, Botteux, qu'il faut bien comprendre. Donc, il y a une pensée comme ça qui évolue, c'est un esprit qui va, n'est-ce pas, qui va sans cesse.
Qui va rencontrer Marthe Richard, par exemple. Il a 17 ans, il rencontre Marthe Richard, qui se fera un nom
oui,
après...
Oui, la célèbre Marthe Richard, mais peut-être que les jeunes générations ont oublié qui était cette dame. Mais
oui, c'est indispensable de...
Voilà, c'est cette dame qui s'est fait une célébrité à la Libération. Elle était non pas députée, comme on le dit souvent par erreur, elle était conseillère municipale de Paris. Elle était à l'origine de la loi dite Marthe Richard, qui a été ensuite votée par les députés, qui interdisait les maisons closes en France. Et donc, elle était présentée par les Ligues de Vertu comme une héroïne, en fait.
Mais Botul l'avait connue bien avant.
Bien avant, et des travaux ont montré que la biographie de Marthe Richard est beaucoup moins vertueuse que l'image publique qu'elle a donnée à la Libération. C'est très intéressant. Elle a eu plusieurs vies, on va dire. On
entend pas. Mais Botul n'y est pour rien.
Dans la célébrité de Marthe Richard, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Il se peut que Botul, la rencontre avec Botul, ait mis Marthe Richard sur le droit chemin, comme on dit chez les bien-pensants.
Alors Botul est un drôle de patriote, parce qu'en 1914, alors que tout le monde va à Berlin, dit-on, eh bien, Botul, lui, échappe à la mobilisation et se réfugie en Argentine, où il devient professeur de tango, chauffeur de taxi et psychanalyste bénévole.
Oui, il a inventé la taxithérapie, qui est un dispositif thérapeutique qui, malheureusement, n'a pas été ensuite tellement pratiqué. C'est-à-dire, il y a deux personnes, hein, le patient et le psychothérapeute. Le psychothérapeute, si on peut l'appeler comme ça, conduit. Donc, il tourne le dos à la personne qu'il consulte et la consultation se fait en roulant. Et on paye à la fin, comme dans une cure. Alors, c'était une sorte de contrepoids à la psychanalyse qui naissait à la même époque et qui s'établissait. Botul n'a pas eu de chance, mais est-ce l'Argentine ? La taxithérapie n'a pas eu une grande postérité.
Quand on y pense, quand même, la notion de transfert est quand même très très forte dans le taxi.
Ouais.
Et on voit bien les liens forts entre la psychanalyse et le taxi. Je ne comprends pas que ça n'ait jamais été... il y avait aussi l'expérience du bobsleigh. Ouais. Il avait fait un petit peu de bobsleigh. Évidemment,
c'est quoi le bobsleigh ?
Le bobsleigh, nous sommes deux dans une luge qui descend une... c'est comme...
Le bobsleigh ?
Bobsleigh, excusez-moi. Vous prononcez le G, vous ?
Oui,
je pense. Il y a plusieurs écoles, oui.
On peut dire luge, hein ?
Oui.
Voilà. Donc, c'est une technique dans laquelle on monte derrière le patient qui s'exprime pendant les quelques kilomètres de descente. Ça va très, très vite, hein. C'est comme ça que Freud a commencé, d'ailleurs.
En bobsleigh.
Ah, oui. Et au fait, après, il a trouvé que c'était plus confortable en divan, mais au début, il a commencé en bobsleigh.
Alors, Botul est un drôle de patriote, quand même.
On ne sait pas grand-chose sur le comportement de Botul pendant la guerre 39-45, qu'on appelle d'ailleurs en France la guerre 39-40, pour des raisons qui m'échappent. Donc, il y a une ambiguïté de l'engagement chez Botul, qui, à mon avis, est une sorte de réponse à l'engagement sartrien. Il faudrait qu'on creuse là-dessus. Pour l'instant, la correspondance entre Sartre et Botul, qui existe, n'est pas entièrement dépouillée. Donc, on attend beaucoup de ceci.
Il y a une relation avec Sartre, mais enfin, il y a quand même... Il y a une liaison avec Beauvoir.
Il a une liaison avec
une liaison avec Beauvoir, oui.
Ça, vous le savez.
Oui, bien sûr. Ça, c'est du certitude.
Très bien.
Il y a des choses qui sont plus floues, mais voilà. On le sait trop peu.
Sans attendre la fin de la guerre, dès 1915, Botul rentre en France.
Oui, pour des raisons encore assez mystérieuses. C'est son échec argentin, probablement, l'échec de la taxithérapie, l'échec de ses cours de tango.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'échecs avant son existence.
Oui, on peut dire que c'est un philosophe de l'échec, ça c'est sûr. C'est sûr. Il a été beaucoup pillé, en fait. Vous avez cité des noms prestigieux. On a cité Sartre, Simone de Beauvoir, Baden-Powell. Tout le monde a piqué dans Botul. C'est le problème du philosophe de tradition orale. Vous voyez, l'existence précède l'essence, qui a été présentée comme une maxime sartrienne. Eh bien, à l'origine, c'est Botul qui dit « l'existence précède l'essence ». Mais de peu, Sartre, avec son génie, enlève les derniers mots et ça devient cette formule que tout le monde a gardée. Mais c'est une sorte de loser de la philosophie, c'est exact, abondamment repris, jamais cité.
En 1917, il rencontre Zapata.
Oui.
et Pancho Villa, oui. mais aussi Léon Trotsky en 1917,